Chers auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui s'occupe des questions de la vie au quotidien. Comment rédiger un bon CV et une excellente lettre de motivation? Nous en parlons avec Dr. Yves Daniel Ngavan, il est coach en organisation des entreprises. Dr. Yves Daniel Ngavan, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio Okapi.
Bonne année 2025.
Merci pareillement à toi et à nous tous.
Merci beaucoup. Et si ce thème concernant la rédaction d'un bon CV et d'une bonne lettre de motivation vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires au numéro 099-706-9941, c'est aussi possible. De nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Théophile Loco qui nous a écrit depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo. Il affirme que pour attirer l'attention d'un recruteur et décrocher une entrevue, il est important que votre curriculum vitae présente vos compétences de manière détaillée, concise et stratégique. Nous entendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou vous présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce à Vézolo réalise ces numéros et Alain Goyi s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Voilà Milambo, Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble des correspondants et une équipe des présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi. Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Pour susciter l'intérêt d'un recruteur et décrocher un entretien, votre curriculum vitae doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique selon les spécialistes en ressources humaines. Et le même principe doit être respecté dans la rédaction de la lettre de motivation. Cependant, bon nombre de demandeurs d'emploi ne savent pas présenter ces deux documents essentiels dans un processus de recrutement. Comment alors rédiger un bon CV et une excellente lettre de motivation? Nous en parlons avec Dr. Yves Daniel Ngavan et nous rappelons qu'il est coach en organisation des entreprises. Dr. Yves, première question, que représente un CV et une lettre de motivation dans un processus de recrutement?
Merci beaucoup Tati pour cette invitation. J'aurais bien voulu être au studio avec toi pour qu'on en débatte, mais que cela ne tienne, je suis là. Il faut dire déjà d'entrée de jeu que l'emploi est quelque chose de très capital pour un humain, surtout l'adulte, quand on n'a pas d'emploi, et c'est très compliqué pour la survie et pour le développement même du pays. Alors, et pour accéder à l'emploi, il y a des conditionnalités établies de manière professionnelle, notamment en écrivant un CV professionnel pour donner la possibilité aux recruteurs de s'y intéresser et de vous rappeler en cas de besoin pour des éventuels échanges approfondis. Donc, le CV est un document clé, est un document important. C'est votre portrait, mais un document que vous brandissez devant le recruteur pour faire prévaloir vos compétences et de démontrer que vous êtes apte à décrocher un poste et à faire le travail de manière conséquente. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu.
Et la lettre de motivation?
La lettre de motivation, par contre, est différente de demande d'emploi. Parce que cette dernière, comme on dit, c'est une lettre de motivation. elle peut être rédigée que lorsque le poste est connu et on veut démontrer en motivant son action que vous êtes la personne la mieux placée ayant des compétences requises pour pouvoir avoir ces postes. Et ce n'est pas un résumé du CV, ce n'est pas non plus une redondance de tout ce qui a été dit dans le CV. Sur le plan de sa rédaction et de son orientation, elle prend plus les aspects de motivation et de démonstration des aptitudes qui vont vous faciliter l'accès au travail, alors que le CV en soi détaille de manière procédurale tous les éléments nécessaires qu'un homme doit détenir pour accéder à un emploi. Mais la lettre de demande d'emploi, parce que j'évoquais, demande d'emploi, c'est la forme la plus traditionnelle à utiliser, et c'est lorsque l'emploi n'est pas connu et on est en quête d'emploi et on veut écrire à n'importe quelle société pour rechercher du travail. En ce moment-là, on peut écrire une lettre de demande d'emploi. Mais il y a souvent de confusion entre cette lettre de demande d'emploi et la lettre de motivation qui ne peut se faire en principe que lorsque le poste est connu et publié et partagé.
Et la demande d'emploi est différente d'une candidature spontanée ou ça revient au même?
En termes rédactionnels, il y a des petites nuances, mais d'accord, c'est la même démarche.
Parfait.
En termes de démarche, c'est la même démarche.
Docteur
mais,
Yves,
sur le plan rédactionnel, il y a des nuances qu'il faut respecter.
Parfait. C'est de ces thèmes que nous allons développer dans les corps de cette émission. Docteur Yves Daniel Ngava, nous rappelons que vous êtes coach en organisation des entreprises. Dites-nous, il vous est arrivé de participer à des panels hein, de présélection, de recrutement. D'une manière générale, les CV et les lettres de motivation que vous recevez, est-ce que il se dégage que les jeunes qui concourent aux postes qui sont publiés maîtrisent les techniques rédactionnelles d'un CV et d'une lettre de motivation?
Alors, Tati, il faut dire que la situation a un tout petit peu évolué parce que je me souviens, ça fait 10 ans, toujours avec la radio Capi, depuis 2014, où je réponds pratiquement présent à des différentes émissions à la radio Capi, à des conférences sur le plan national et international. Mais j'ai également écrit en 2015 un ouvrage qui est intitulé Passeport à l'emploi et au 9e chapitre, nous parlons de CV, le 10e chapitre parle de la lettre de motivation. Nous avons également fait beaucoup de formations pour aider tant soit peu la jeunesse à améliorer l'élaboration de ces outils. Mais la tâche reste encore immense aussi longtemps que au niveau des universités qui préparent effectivement les jeunes à l'employabilité, mais l'université reste dans sa thématique naturelle qui ne facilite pas des informations notamment sur l'élaboration des CV et l'aide de motivation. En bref, l'université ne prépare pas suffisamment le jeune à l'employabilité en ce qui concerne ces questions. Aujourd'hui, nombreux qui quittent les universités se présentent devant nous avec des CV totalement décousus, avec des lettres de motivation qui ne répondent pas aux normes, et parfois ça donne pas la chance à ces jeunes d'être gardés dans le processus de recrutement. Ils sont éjectés au premier vu parce que ils n'ont pas eu suffisamment d'informations là-dessus. Donc cette thématique vaut encore son pesant d'or parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas de programme spécifique au niveau des universités, aussi longtemps que les formations se font en pièces détachées par des structures pas suffisamment aussi appuyées, donc il y a une marge de la population, surtout de la jeunesse, qui n'accède pas à ces informations et qui continue à aller dans les cybercafés en réclamant « Est-ce que vous produisez des CV ?» Oui, on ouvre un fichier, on lui pose la question « Nom de mère, nom de père, territoire d'origine ?» On complète, on laisse des pointillés, on imprime et c'est le même CV qu'il dépose à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et ça, c'est vraiment des choses à déplorer et qui arrivent parfois à faire passer quelqu'un à côté d'une opportunité, tout simplement parce qu'il n'a pas été suffisamment informé et accompagné dans la rédaction de ces outils.
On vous garde en ligne et on va aller au standard hein, avant de développer cette thématique. Docteur Yves Daniel Ngavane, je rappelle que vous êtes coach en organisation des entreprises. Comment rédiger un bon CV et une excellente lettre de motivation? C'est de ce thème que nous sommes en train de débattre dans cette première partie du magazine Okapi Service. Et si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour prendre la parole en direct au numéro 099-706-9941.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir. Okapi.
Les premiers auditeurs, il appelle de Bounia. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Il s'appelle Georges Kilangalanga. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour Monsieur Tati, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs d'Okapi Service.
Nous tablons sur les techniques de rédaction d'un bon CV et d'une excellente lettre de motivation. Un commentaire à ces sujets?
Oui, et d'abord je partage les analyses de l'invité quand il parle par exemple de diversité qui ne prépare pas assez le futur demandeur d'emploi ou les gens ou les chercheurs d'emploi. Aux bonnes conditions d'employabilité, parce que les universités, c'est le terme qui est utilisé. Chaque fois, on dit on a largué autant de personnes dans le marché d'emploi, mais on ne le capacite pas à répondre justement aux critères, parce que vous ne pouvez pas avoir l'emploi à moins que ça soit en politique, parce que là, peut-être, ça ne demande pas ces conditionnalités, mais dans le monde d'emploi, qui est d'ailleurs un monde compétitif, il faut savoir convaincre. Et on convainc en passant justement par ces deux documents, les CV, la lettre de motivation. Alors, avant de poser mes deux petites questions à l'invité, je dois d'abord dire que dans le monde d'emploi, heureusement, le coach qui est avec vous au studio connaît bien ces choses. Mais il y a certaines structures, il y a des ONG qui ont des chargés de recrutement qui eux-mêmes ne maîtrisent pas les ABC de ces documents. Et ça crée parfois des confusions. Quelqu'un peut présenter des bons documents, mais parce que le chargé de recrutement lui-même est ignorant de certaines choses et il loupe l'occasion. Alors, je m'en vais pour finir poser deux petites questions à l'invité. La première question, c'est celle de savoir, par rapport à la présentation d'un CV, est-ce qu'il est obligatoire de détailler, par exemple, lorsque vous avez occupé un poste, est-ce que c'est obligatoire de détailler les attributions? Parce que parfois, ça crée un peu de problème, vous avez quelqu'un qui a travaillé dans 5, 10, dit organisation, détailler de manière claire et de manière donc générale et tout ce qu'il a fait dans les entreprises passées, parfois ça gonfle le document et c'est beaucoup plus exagéré. Alors qu'il y a des entreprises qui limitent le nombre de pages par exemple à 3, et lorsque vous voulez détailler tout ça, ça crée problème. Et puis je l'ai entendu parler lorsqu'il a dit donc, vous avez un modèle de CV qui est partout. Et bon, je voulais un peu lui poser la question. Votre propre CV, est-ce qu'il faut l'adapter chaque fois à l'emploi que vous postulez ou soit que vous pouvez seulement voir si vous voyez que votre CV détaille et clairement vos compétences, vous pouvez les déposer dans plusieurs organisations. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Georges Kilangalanga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Notre invité aura le temps d'éclairer la lanterne hein, des auditeurs concernant des questions pertinentes hein, que je pense. Ismaël Mupoyi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Ah, bonjour Tati Mapoko.
Bonjour à l'invité.
On vous donne la parole.
Ah, merci beaucoup. Bon, je pense que souvent quand on parle de du CV, je ne sais pas si c'est un mot français. Bon, comme j'ai une notion en italiano, je pense que ce mot vient du mot latin. Bon, en français, des fois, des personnes ne savent pas ce que c'est CV ou curriculum vitae. Je pense que c'est ça.
Bon, il a fallu assez de spécificité
pour que les gens même ouais, comprennent d'abord ce que c'est les curriculum vitae. Deux, il y a un grand problème. Quand on parle du CV et on parle de la lettre de motivation, des fois on se base plus de parler sur CV que sur la lettre de motivation. Et les composants, les éléments, les débuts, le milieu, la fin de lettre de motivation. Dans la réduction du CV, vous comprenez que ça dépend selon l'emploi ou selon celui qui cherche un emploi. C'est-à-dire, une personne s'invente de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Mais je le mets seulement en écrit. C'est parce que c'est exigé, on m'a demandé, il faut être ça. Mais si je veux écrire cette lettre-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en relief. J'invente les mots, j'invente ce que j'ai fait. Mais par contre ou par conséquent, le niveau de ce que tu dois faire par rapport à votre CV, souvent, ça ne reflète pas. Moi, je demande à M. Ngaba de nous expliciter un peu les composants
de lettre de motivation. Les éléments constitutifs d'une lettre de motivation.
Mais pourquoi on parle si souvent du CV plutôt que de détailler aussi les composants de la lettre de motivation? Mais en plus, pour le cas de ce qui se passe...
La liaison s'est dégradée avec la ville de Lubumbashi.
Toutes les données sont là. Est-ce que y a-t-il moyen de faire le parallélisme entre la lettre de motivation, plutôt, la CV et la carte d'honneur? Parce que beaucoup de données là, s'il s'agissait... si vous avez cette carte-là dans des pays où il n'y a pas que la demande plutôt que l'offre, je pense que l'ONEM donne directement ces candidats-là, parce qu'il y a aussi les données fournies. Est-ce qu'il va encore exiger d'écrire la lettre de motivation? Mais s'il s'agissait d'écrire une lettre de motivation, et plutôt les curriculum vitae, mais qu'est-ce qu'une personne doit prendre d'abord en tête pour écrire cette lettre-là?
Merci
qu'est-ce
beaucoup.
Qu'il va faire?
Merci beaucoup, Ismaël Mupoyi.
Quelle est l'importance même de cela, parce que plupart des personnes mentent.
Oui, nous retenons votre préoccupation. Nous rappelons que Ismaël Mupoyi intervient depuis la ville de Lubumbashi. Excellente journée. Je me tourne vers vous, docteur Yves Ngavan. Comment répondez-vous d'abord à la question de Georges Kilangalanga de Bounia?
Merci, Georges, pour tes deux questions. Et aussi les commentaires qui a précédé. Dans tes questions, il y a déjà des éléments de réponse. Il est important dans un CV qu'on ressorte certains détails professionnels en termes d'expérience. Mais cela ne veut pas absolument que vous mettiez tous les petits détails que vous avez eus qui sont liés à ces postes. Il est recommandé de ne mettre que le principal tâche, ok? Et les autres détails, vous pouvez le mettre de côté. C'est-à-dire, vous voulez...
Docteur Yves,
oui.
Ou les éléments en lien avec les postes publiés. Si par exemple, j'ai eu à travailler dans 4, 5, 6 entreprises et que la 7e a publié un avis de vacances des postes et que je suis intéressé de ne mettre que les éléments en lien avec l'avis de vacances des postes qui a été publié.
effectivement, là, ça répond déjà à la deuxième question de Georges, qui a demandé si on doit garder le même type de CV ou on doit l'adapter à chaque fois. C'est-à-dire, dans la première partie de la question de Georges, je voulais juste dire à Georges qu'on ne met pas tous les détails liés à un poste dans le CV. On s'arrête à la principale tâche. En second lieu, le CV est un élément d'actualité. On ne peut pas avoir un même CV et on postule partout. Parce que chaque poste a ses exigences, chaque société a ses priorités. Donc, pour un emploi X, il faut un CV X. Vous ne pouvez pas prendre un CV Y pour un emploi Z. Donc, ces tâches, ces expériences que vous devez faire prévaloir, ça doit répondre effectivement et foncièrement aux exigences de l'autre en face de vous. Sinon, vous passez à côté. Donc, les CV, c'est pourquoi on dit on doit avoir un CV actualisé. Actualisé veut dire en lien avec les exigences du poste en face de vous. Pour notre ami de Lubumbashi,
Ismaël Mumpoyo,
qui a demandé des éléments effectivement qui constituent le CV et la lettre de motivation. Il faut dire déjà que le CV, qui est le portrait détaillé de parcours professionnel d'une personne en exprimant clairement de manière très concise ses compétences en lien avec un poste, doit répondre aux exigences sur le plan de la forme et de fond. Et en ce qui concerne la forme, un CV est souvent présenté en formant A4, de papier A4, et avec des éléments essentiellement liés à la présentation individuelle, qu'on appelle le détail personnel, là où on trouve les noms et les contacts de la personne.
Du candidat.
Nous avons du candidat. Nous avons le profil. Il faut détailler un profil. Il faut faire les résumés de votre profil en lien avec le poste que vous êtes en train de vouloir décrocher. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle le cursus éducationnel, donc votre parcours scolaire, où vous devez donner des éléments très clairs sur les niveaux les plus élevés d'études et la certification, la diplomation obtenue, et aussi les autres éléments de formation, si vous avez suivi
certaines formations. Donc, il faut le présenter par ordre croissant ou décroissant.
On commence par l'ordre décroissant, c'est-à-dire
les dernières études faites,
par
les dernières études,
les derniers diplômes obtenus, parfait. Le plus inférieur. Et pour nous en RDC, il faut qu'on s'arrête au diplôme d'État. L'école maternelle et l'école primaire, ça ne sert à rien, du tout. Si vous avez aussi fait de formation et que surtout ces formations ont été certifiées, vous pouvez après les études faire prévaloir les certifications obtenues au cours de la formation. Donc, ça rentre dans la rubrique cursus éducationnel ou encore parcours scolaire. Il y a un autre élément dans le CV qu'on appelle l'expérience professionnelle. Et c'est ici où on fait on évoque des expériences ayant trait au poste et qui sont en face de vous. Et j'insiste que cette rubrique d'expérience pourra changer et ça doit changer au fur et à mesure que vous êtes en train de postuler. Et pour un emploi X, je regarde dans ma base de données les différentes expériences que j'ai. J'essaie de sélectionner les expériences qui ont de trait ou qui me donnent plus d'avantages par rapport à ce poste. Je le prends. Mais pour un autre emploi, si je fais le même exercice, et tu peux voir l'expérience que j'avais présentée dans mon premier CV, peut ou n'est pas figurée dans le deuxième CV. Donc, c'est ça un point d'actualisation de CV. Et quand on doit présenter cette expérience personnelle, professionnelle, on a besoin de la durée, on a besoin de la société ou de l'organisation où vous avez travaillé, le titre du poste, mais aussi de tâches principales que vous avez eu à exécuter lorsque vous occupez ces postes-là. Donc, vous vous arrêtez à ça pour ne pas trop surcharger votre CV. Et comme vous savez, il est déconseillé d'aller au-delà des 3 pages parce que plus le CV est abondant, ça donne moins de chances aussi de lecture. Et en ce moment, lorsqu'il est aussi mal présenté, et ça vous donne beaucoup autre chose. Mais à part l'expérience professionnelle, il y a aussi ce qu'on appelle les autres compétences.
Oui.
Les autres compétences.
Docteur Yves, s'il vous plaît, permettez-nous de retourner au standard et puis on va revenir au studio et nous allons développer davantage les sujets. Alors on va aller cette fois-ci à Lubumbashi. Hein. Il y a Alfred Ntumba qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Alfred, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos éditeurs qui nous suivent à l'instant. Merci.
On vous donne la parole.
Merci beaucoup d'avance pour m'accorder la parole. La première des choses, j'ai quelques questions à poser à notre invité du jour par rapport à tout ce qu'il a essayé de nous éclaircir concernant les thématiques du jour. J'ai à peu près quelques questions que j'aimerais juste te poser. Il y a l'une des questions que je vais commencer d'abord à aborder. Par exemple, comme il a parlé des compétences que nous devons tout simplement énumérer dans nos CV, et qu'on sort. Alors, ma question est la suivante pour savoir quelles sont l'importance des capacités demandées, donc recherchées dans les CV par les recruteurs. Pourtant, il y a déjà un candidat qui est à côté, comme une personne l'a recommandé pour hériter ce poste-là. Alors que les recruteurs cherchent d'abord les compétences. Et lorsque on attend à une interview, on passe toutes les formalités, on n'arrive pas à pouvoir l'accès à ces postes-là. Pourtant que c'est les recommandés là qui ont le pouvoir à obtenir ces postes-là. Et par là, je ne sais pas comment procéder aux compétences, rechercher encore d'améliorer les CV, mettre des compétences et tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est la première des questions.
Alfred,
la deuxième Alfred, des questions,
quelles sont les autres? Alfred, s'il vous plaît, j'essaie de reformuler un peu ta question. Vous voulez savoir s'il y a aussi des offres qui sont publiées à titre des formalités, parce que les entreprises ont déjà leurs candidats dans leurs fichiers, c'est ça?
Oui, leur profil a déjà des candidatures à réserve. Bon, il paraît peut-être que l'entreprise ont déjà lancé des offres. Des recherches paraît, on a déjà des candidats en sous-coulisses. Mais on a lancé l'offre avec des exigences, des compétences, ainsi de suite. Et j'ai déjà postulé, j'ai déposé, et je suis même recherché pour passer à une interview. Alors, lorsque je suis passé, j'ai déjà tout fait et je m'attends que je serai quand même engagé. Il m'arrive de voir qu'on va m'expliquer quelque part où je vais toujours tomber de sorte que celui qui est déjà recommandé puisse régner ses postes. Alors, quelle sera l'importance de rechercher les compétences exigées dans le CV?
Je comprends. Deuxième question.
Oui. La deuxième question, quels sont les objectifs majeurs des recruteurs lorsqu'ils ont déjà des candidats à côté pour pouvoir faire apparaître encore de nouvelles opportunités d'emploi? Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Alfred. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Je retourne ici à Kinshasa pour donner la parole à Maître Omar. Bonjour et bienvenue dans Capi Service, Maître.
Bonjour Monsieur Tati, mes vœux le meilleur à vous et à toute l'équipe.
Bonne année, on est en train d'établir sur comment rédiger un bon CV et une excellente lettre de motivation. Vos préoccupations à ce sujet?
Merci beaucoup Monsieur Tati. Avant tout, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Le sujet est intéressant, mais avant tout, je voudrais aussi répondre à un auditeur qui m'a précédé. Curriculum vitae, c'est un mot latin.
Et non italien. Il
veut dire la vie, curriculum veut dire carrière ou parcours. Donc, c'est un document qui énonce les parcours de la vie d'une personne. sa vie académique, sa vie intellectuelle, sa vie scientifique, et que sais-je. Alors j'ai la première question à poser à Dr. Ingwabani, que je salue, une des élites qui se bat pour l'entrepreneuriat, il faut le féliciter. J'ai comme l'impression que le problème des CV, c'est parmi les choses qui bloquent l'emploi au Congo. Pourquoi je le dis? Il a lui-même dit qu'il n'y a pas une école ou une université qui enseigne comment établir un CV. Ce qui fait que dans la pratique, il y a pluralité de modèles. Chaque entreprise a son modèle, chaque coach donne son modèle. Et ça embrouille les jeunes. J'ai vu des jeunes compétents, des jeunes intelligents, échouer parce qu'ils n'ont pas respecté, et non le fond, mais la forme d'un CV. Alors qu'ils nous disent de manière précise, même s'il y a plusieurs modèles, mais il y a quand même des paradigmes généraux auxquels on peut se référer. Quels sont les éléments fondamentaux qu'on doit retrouver dans un CV? Il a cité, moi-même j'ai vu un coach qui a dit, il faut même ajouter habileté faire ça et savoir-faire. Donc au-delà du parcours académique, on doit même dire que je suis apte à travailler, je peux supporter le stress, je me fâche difficilement. Il y a d'autres entreprises qui veulent qu'on le connaisse. S'il peut nous citer les rubriques fondamentales. Moi, je suis déjà avocat, ça ne me concerne pas trop, mais j'encadre des jeunes et ça peut leur aider. Deuxième question. Dans une lettre de motivation, il y a des paragraphes. De manière générale, il faut combien de paragraphes et quel est le but de chaque paragraphe? Parce que certains disent dans les premiers paragraphes, il faut se présenter. Dans le second, il faut féliciter les recruteurs parce qu'ils veulent faire et présenter l'offre. Et dans le troisième, le plus fondamental, il faut aborder la question, démontrer aux recruteurs en quoi vous pouvez être utile pour sa société. Est-ce qu'il confirme cela ou il y a d'autres paragraphes qu'il faut ajouter? Troisième question, monsieur Yves, on dit souvent qu'il faut écrire la lettre de motivation en manuscrit. Ça permet aux recruteurs d'apprécier votre intelligence parce que l'Internet, ça facilite la tâche, les machines, on peut corriger. Mais on veut qu'on écrive en manuscrit pour voir si la personne qui a écrit a réellement bien écrit, il a une belle écriture, il sait écrire. Est-ce que vous affirmez cela? Pour finir, monsieur Tati, je voudrais ici interpeller tous les coachs, y compris monsieur Yves Gambani, que j'apprécie beaucoup. En pédagogie, on dit, l'enfant apprend de deux manières, soit en écoutant, soit en imitant. Mais la meilleure manière par laquelle l'enfant apprend, c'est imiter. Beaucoup de coachs en développement, en organisation d'entreprise, nous parlent plus de théorie sans parler de ce qu'ils font. Quand Elon Musk vous parle de comment réussir, il nous présente X, il nous présente Twitter. Quand Ricardo Kanyama nous parle de la chèvre de ma mère, il nous présente l'entreprise. Je sais que M. Yves est un entrepreneur, je le connais très bien. Mais dans vos allocutions, présentez aussi ce que vous faites. On a assisté quand j'étais étudiant à une conférence, comment devenir millionnaire. À la fin de la conférence, le conférencier a pris la moto pour rentrer. Ça nous a perturbé. On a dit, mais comment il nous apprend à être des millions, lui-même n'a pas des millions. Ça a perturbé, les gens n'ont plus suivi. Alors, vous devez dire, moi, Yves Ngabani, je vous apprends à écrire un CV. J'ai écrit un CV à l'ONU, on m'a recruté. Voici. Ça s'ébuit, ça rend encore succulent.
Moi, je vous connais personnellement.
C'est un grand.
Ouais.
Oui, beaucoup disent, ah, ils parlent trop les théoriciens et même les fourriers. Deuxième chose, monsieur Yves, puisqu'il n'y a pas une école qui apprend cela, l'entrepreneuriat ou comment écrire, pourquoi ne pas, vous avez des contacts avec les gouvernants, pourquoi ne pas créer un certain programme congolais? Parce qu'il y a pluralité d'enseignements, il y a pluralité des coachs et on se sent perdu. Pourquoi ne pas vous militer pour qu'il y ait, parce que moi je crois en vous, je connais vos compétences, mais certains coachs qui passent comme vous et qui disent des choses. Pourquoi ne pas créer un centre de formation ou pourquoi ne pas instituer cela comme cours de manière permanente à l'université? Pour finir, je voudrais t'appeler, monsieur Tati, les gouvernants, principalement les ministères du travail. Voilà des gens qu'il faut associer dans vos études. L'un des problèmes épineux qui bloque le Congo, c'est l'accès à l'emploi. L'emploi n'est pas que public. Surtout là, on sait comment on devient fonctionnaire. L'emploi est aussi privé. Un privé qui capitalise, qui dépense l'argent, a besoin des personnes compétentes. Voilà pourquoi ils sont exigeants par rapport aussi à l'aide de motivation. Des gens comme M. Yves Gabane, ils sont très importants dans les cabinets, même comme experts, pour aider ces ministères à former les jeunes. Parce que quand on dit accès à l'emploi, ce n'est pas seulement créer l'emploi. Aider aussi les gens à créer leurs propres emplois, les aider aussi à accéder aux emplois. Voilà ma petite contribution. Je dis, et une fois de plus, bonne année, monsieur Tati.
Merci beaucoup, maître Omar. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Je me tourne vers vous, docteur Yves Ngavane. Comment répondez-vous à l'auditeur qui a appelé de Lubumbashi, monsieur Alfred Ntumba, qui a fait allusion à la publication de certains avis de vacances de poste où il y a déjà des candidats soi-disant entre guillemets présélectionnés et c'est à titre de formalité que les entreprises font ça.
Oh, merci beaucoup Tati, une fois de plus. Je pense que oui, les offres fantaisistes existe. Hein, et nous dénonçons et nous décourageons ce genre de pratiques qui ne facilitent pas l'accès à l'emploi, mais aussi de garantir l'employabilité de manière plus efficace et efficiente à tous. Mais de l'autre côté, on ne doit pas se décourager. J'ai toujours dit aux jeunes, le plus important, c'est d'avoir de meilleurs éléments qui vous permettent d'être bon dans le système. Mmh. Et si vous passez tout votre temps à critiquer les systèmes, au lieu de passer plus de temps à vous améliorer, à être efficace une fois que vous allez appeler à être dans ces systèmes, vous perdez votre temps. Donc, c'est vrai qu'il y a des offres fantaisistes, ce n'est pas très bon, mais il doit plus travailler sur l'acquisition des compétences pour qu'il soit utile. Quand est-ce qu'on aura besoin de lui.
Donc, oui, mais en même temps aussi, docteur Yves, il faut souligner également qu'il peut arriver qu'une entreprise puisse republier un avis de vacance de poste avec certains candidats si le premier test n'a pas convaincu le jury. Ça existe aussi.
Effectivement, c'est un long processus. Les recrutements, c'est parmi les processus qui coûtent à l'entreprise en termes de temps et en termes de moyens. Parce que imaginez-vous, c'est comme dans une équipe de football et vous voulez gagner un championnat, il faut chercher, sélectionner le meilleur joueur et qui a de la chaleur aux pieds, qui a toutes les aptitudes. Et si vous ne faites pas ces choix, vous risquerez de recruter un joueur au lieu d'apporter
la
victoire à l'équipe, vous perdez les matchs. Vous avez perdu le temps d'aller les chercher, vous avez perdu de temps en payant un coach pour les entraînements et tout, et à la fin, il n'a pas été à la hauteur. Donc, le recrutement, c'est un long processus auquel nous nous employons, et ça demande de la rigueur, du sérieux, mais aussi de la conscience, parce que si c'est pas bien fait, vous faites mal à l'entreprise, mais aussi vous faites mal à la personne qui a déployé son énergie, qui a cru en vous, qui s'est débrouillé pour vous faire parvenir sa documentation et consorts, même passer aux tests, aux interviews. Et à la fin, vous ne le prenez pas, vous prenez quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'il a de relations particulières avec un responsable et consorts. Et là, c'est injuste. Et moi, je suis contre l'injustice et je ne peux pas encourager ce genre de pratique.
Tournons-nous maintenant vers les préoccupations des maîtres Omar qui a voulu savoir. Il y a plusieurs modèles types de lettres de motivation et des CV. Quelles sont les rubriques importantes, les points fondamentaux que l'on doit forcément retrouver dans un CV et dans une lettre de motivation?
Merci, je salue maître Omar et mes meilleurs voeux. C'est quelqu'un, on ne s'est jamais vu, mais... on a eu à échanger à travers Radio Capi plusieurs fois. Et comme je l'ai dit à l'introduction, ça fait 10 ans que j'interviens à la Radio Capi depuis 2014. Cette année, ça fera 11 ans. Et ça fait 10 ans que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Passeport à l'emploi, qu'on peut trouver à Mediaspol, qui traite essentiellement cette thématique. Et il faut dire que nos réflexions et nos partages ont un tout petit peu influencé les politiques du gouvernement dans ces 10 dernières années, même si nous-mêmes, on n'est pas encore acteurs pratiques au sein du gouvernement. Mais il faut dire que la plupart de nos recommandations ont porté des fruits parce qu'on a vu certaines choses s'améliorer. Mais nous espérons que ça va encore s'améliorer davantage. Avec ou sans nous, le plus important, c'est que c'est les Congo qui gagnent, que c'est les jeunes qui trouvent des emplois. Et ça, ça nous met très à l'aise. Et je prends rapidement la dernière partie de ces questions et puis donner les éléments. Nous ne venons pas en émission pour parler de nous. On parle des thématiques. Si on fait des émissions pour parler de mon parcours ou des autres, nous parlerons de nos parcours. D'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Mais je ne peux pas venir ici faire ma publicité ou parler de moi alors que je dois dire aux gens comment rédiger un CV. Donc voilà, s'il y aura des émissions pour parler des détails sur nous et ce qu'on fait, volontiers on va se mettre à cet exercice. Et vous le savez, nous avons créé DRC Business School il y a 10 ans Et c'est cette école qui a produit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont du travail et qui font du business. Par nos formations, beaucoup ont retrouvé le chemin du travail. Ils peuvent aussi en témoigner s'ils sont en ligne. Mmh. Donc, nous essayons tant soit peu, même en n'étant pas encore au gouvernement, mais en faisant quelque chose pour la République. Et les éléments fondamentaux d'un CV, j'ai commencé à les évoquer. Mmh. Il faut dire d'abord qu'il faut, en termes de modèle, il n'y a pas un modèle standard de CV. Hein, chacun peut essayer de faire le CV de sa manière, mais il y a des rubriques qu'il faut respecter et les standards qu'il faut respecter. Les éléments clés dans un CV, et d'abord, un, il y a la présentation personnelle, il faut se présenter, dire ton nom, donner tes coordonnées. De deux, il y a les profils qu'il faut définir. Les profils ayant trait, au fait, c'est la somme de ce que tu comptes apporter à ces postes-là qui est en face de toi. Il y a le cursus éducatif. On en a parlé tantôt. Mmh. Nous avons parlé de l'expérience professionnelle. Et c'est là où on s'était arrêté. Mais il y a aussi les autres compétences. Dans les autres compétences, il y a l'aspect linguistique, le langue, mais aussi les aspects technologiques. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de l'outil informatique, les logiciels et consorts. Mmh. Et il y a cette rubrique qu'il faut le mettre. Mais à part ça, il y a le centre d'intérêt. Dans le centre d'intérêt, c'est là où on parle aussi des habiletés, à la passion qu'on a par rapport à la musique, par rapport à ceci, par rapport au voyage et tout ceci. Mais aussi si on a publié des ouvrages et tout, on peut faire allusion à ça dans le rubrique centre d'intérêt. Et il est toujours conseillé de finir un CV par le référence. Donc citer de personnes clés, de personnes de référence, auprès de qui on peut avoir des informations complémentaires
vous concernant.
On veut approfondir cette question autour de votre candidature. Donc, avec ces quelques rubriques, vous pouvez déjà constituer vous-même votre CV. Alors, est-ce qu'il faut mettre une photo ou ne pas mettre une photo? Ça, c'est pas une obligation. C'est pas obligatoire. Mais il faut avoir des raisons fondées lorsqu'on veut mettre la photo. Est-ce que le poste, on a besoin de voir ton visage et ça apporte quoi lorsque tu mets ta photo pour une candidature X, Y. Mais il y a des profils, par exemple, tu veux dans le secteur de marketing ou encore des communications à la télé ou les hôtesses, on peut peut-être
exiger de placer la photo, physique, oui.
Ça peut. Oui, ça peut quand même donner un élément attractif par rapport à la candidature, mais on n'est pas obligé dans tout CV de mettre sa photo.
Docteur Yves,
ou ne pas mettre.
Docteur Yves, s'il vous plaît, permettez-nous d'aller au standard et puis de retourner au studio. Gardez le coup, il y a des auditeurs qui attendent, qui ont appelé et puis on va leur donner la parole et puis nous allons retourner au studio avec vous. Yves Mouyaya, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour la radio Capi.
Bonne année en même temps.
Docteur Yves. Oh, je salue la pertinence de votre thème d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui dans notre pays nous devons tenir compte du fait que il y a baisse de formation par rapport à nos écoles, par rapport à nos universités, etc. Maintenant au niveau de l'employabilité, lorsque les patrons ou les responsables des entreprises exigent un peu trop par rapport au CV, par rapport à la motivation et consorts, je pense que ça ne peut pas marcher. Je pense, comme l'autre auditeur venait de le dire, que les entreprises elles-mêmes devraient aussi disposer des mécanismes ou des moyens par lesquels on pouvait aussi former, parce qu'il y a la formation professionnels, former les personnes qui les emploient, par exemple pour ce qui concerne les aspects techniques.
Oui, mais ça c'est, monsieur Yves, ça c'est à l'interne, ça c'est dans le cadre de la politique interne de chaque entreprise.
Oui, évidemment,
pas en amont,
concerne, par exemple,
pas avant le recrutement, non.
Les aspects. Oui, mais avant le recrutement, lorsqu'on exige un peu trop, on doit tenir compte de la situation de notre pays. Je suis en train de dire que la formation dans des écoles, dans des universités, a connu de la baisse. C'est pourquoi il n'y a pas tellement Il n'y a pas tellement de compétences, il n'y a pas tellement d'efficacité. Mais maintenant, vous savez, la formation, c'est aussi une sorte de prolongation lorsqu'on est employé. Lorsque une personne est employée et que l'entreprise ou les services qu'elle emploie dispose aussi de formations professionnelles, il y a ce qu'on appelle les renforcements des capacités. Donc ça peut toujours aider, c'est dans ce sens-là qu'on peut aussi aider l'État congolais à avancer. Mais si déjà, avant d'être employé, on exige un peu trop, vous comprenez que ça pose un problème. Donc, nous pensons que c'est bien d'exiger des compétences sur le plan sur le plan technique, etc. Mais le service qui emploie, les entreprises qui emploient, devraient aussi disposer des formations pour maintenir, pour renforcer les capacités des personnes ou des employés qui sont avec eux. C'est dans ce sens-là que nous pouvons avancer. Par exemple, pour ce qui concerne la formation en informatique, vous savez, dans notre pays, la culture de l'informatique n'est pas encore trop répandue. On peut considérer la ville de Kinshasa, mais bon, ce n'est pas, c'est même à Kinshasa, ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une certaine formation dans matière informatique. Et lorsque vous prenez dans l'intérieur, ça pose énormément de problèmes, surtout pour ce qui concerne cet aspect des choses. Il y en a aussi qui exigent que la personne qui veut avoir de l'emploi ait des connaissances en matière de langue anglaise, etc. Ça pose énormément de problèmes. Mais si la personne est déjà employée, que l'entreprise ou le service
donne l'occasion d'apprendre l'anglais,
des formations en anglais. Et que après avoir été employé, que le service ou l'entreprise dispose de ce genre de formations en anglais, etc., ça peut faire avancer les choses. Mais si en amont, on existe ce genre de formation et on en fait un critérium impératif, ça pose énormément de problèmes. Or, l'entreprise a besoin d'un personnel, parce que sans personnel, l'entreprise ne peut pas fonctionner absolument. Donc, on doit tenir compte de notre situation dans notre pays ici. Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que la formation au niveau des écoles, au niveau des universités, pose des problèmes, et donc les entreprises devraient aussi former professionnellement les personnes qu'ils engagent, au lieu déjà de poser des problèmes déjà en amont. Donc là, ça ne peut pas vraiment avancer.
Merci beaucoup, monsieur Yves. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Docteur Yves aura le temps de mettre son avis également par rapport à votre suggestion. Ismaël, excusez-moi, Elias Isamalo, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, meilleur vœu à vous et à monsieur Yves et Daniel.
Bonne année. Alors, le temps se graine vite, allez-y rapidement. Ouais,
j'appelle de Kinshasa. Monsieur Tati, je voudrais seulement donner un témoignage à ce qui concerne cette émission. Yves m'a coaché et je suis parvenu à obtenir des entretiens. Dans le programme Check TV, il m'avait formé. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu à décrocher un travail. Et dans l'entretien, il me disait toujours que chercher un travail, c'est aussi un autre travail. Donc, ce n'est pas un processus qui est simple. Mais il faut vraiment fournir beaucoup d'efforts et il faut vraiment nous aider, nous les jeunes gens. Aujourd'hui, nous sommes bloqués, il y a beaucoup de choses, il y a des opportunités, mais souvent on ne sait pas comment aborder cela. Donc, c'est juste ce que je voulais placer comme mon intervention, M. Tati.
Merci beaucoup Elias pour ton témoignage, c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Docteur Yves, en conclusion, là il nous reste que 3 minutes, comment commentez-vous la suggestion de M. Yves ainsi que le témoignage d'Elias qui a appelé de Kinshasa?
Oui, je remercie Elias, meilleurs vœux, c'est quelqu'un que je connais personnellement, et beaucoup de courage. Dès que je serai là, et on va continuer, et Dieu aidant, tu trouveras l'emploi en 2025. Tu as déjà fait beaucoup d'avancées dans ça. Pour Yves de Kinshasa également, cher Yves, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui met du feu, il y a quelqu'un qui met du feu, mais quelqu'un d'autre doit éteindre ce feu. C'est pas correct. Si la formation est bâclée aujourd'hui, il faut demander aux universités de faire des réformes pour former des personnes compétitives. Les entreprises, Les entreprises ne sont pas des églises, c'est des entités purement économiques et commerciales. Donc, ils ne peuvent pas vous faire cadeau en vous recrutant aussi longtemps que vous n'avez pas des compétences nécessaires. Mais en interne, par contre, on peut vous... Allô?
Oui, on vous reçoit, docteur Yves, allez-y. Docteur Yves, nous vous écoutons. Allez-y.
Allô, allô?
Docteur, nous vous recevons. On vous reçoit 5 sur 5. Allez-y. Docteur Yves, est-ce que vous me recevez?
Ok, donc, oui.
Allez-y.
Donc, je disais que c'est aux universités de préparer suffisamment, mais aussi aux personnes de se préparer à aller en entreprise. N'attendez pas que l'entreprise vous berce et vous prend sans compétences, alors que ça risque d'être une perte. Parce que nous avons ce qu'on appelle les emplois de carrière et les emplois de mission. Pour les emplois de carrière, par exemple, au niveau de l'État, vous pouvez commencer sans expérience, mais les emplois de mission où ils ont des targets bien spécifiques qui gèrent des projets dans les organismes internationaux et consorts, là, tu ne peux entrer, ou des entreprises commerciales, on te recrute parce qu'ils ont un objectif précis et ils ont un résultat à présenter. Donc, on ne va pas passer le temps à te former alors que l'ONEM est là. Il y a l'INPP qui est là, il y a les autres structures de formation où vous pouvez vous-même vous faire former. C'est comme quelqu'un qui veut aller se marier, mais il ne veut pas chercher l'argent de la dot et il attend qu'on lui apporte tout et c'est lui qui va jouer de la femme. Donc, vous devez vous-même vous préparer en conséquence. Alors, Maître Omar, le CV en manuscrit, c'était l'idéal, mais aujourd'hui, avec la technologie, c'est très difficile qu'on garde cet élément comme critère clé. Parce que si quelqu'un est à Kanyabayonga et doit envoyer sa lettre en manuscrit à Kinshasa, nous connaissons la logistique en termes de transport qui pose énormément de problèmes. La lettre va arriver à quel moment? Il faut payer DHL, peut-être qu'il n'existe pas là-bas. La personne ne peut manquer de l'emploi. Avec le numérique aujourd'hui, vous pouvez envoyer par mail. À l'instant, ça arrive au recruteur. Donc, ce n'est plus un critère essentiel. Mais à l'époque, oui, parce que l'écriture est un élément aussi de la personnalité. Bien que le médecin abuse, il met des traits au lieu d'écrire convenablement. Il pense que c'est un style, alors qu'il crée beaucoup de problèmes aux malades, parce que si le pharmacien ne sait pas lire ses traits, il peut donner un faux médicament et ça peut donner la mort. Donc l'écriture, effectivement, c'est un élément clé dans la personnalité.
Docteur Yves Gavan, le temps imparti à l'émission est largement dépassé. Merci d'avoir été avec nous. Nous rappelons que vous êtes coach en organisation des entreprises. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine occasion. Excellente journée. C'est depuis Kampala que vous intervenez.
Depuis Nairobi.
Nairobi,
merci
pardon.
Merci beaucoup. merci à toi et bonne année.